qui parle de l'œuf de Léda. Hein? Bon, ça vous dit quelque chose.
Oui, oui.
Ça va un peu dans le sens de votre image. Alors, vous ne trompez pas, c'est pas le mot Léda en hébreu qui signifie le fœtus de l'accouchement, mais c'est Léda, c'est un oiseau, un cygne, il me semble.
Un cygne.
Bon, et je crois que on ne pourrait pas avancer dans un langage commun avec, entre qui que ce soit et qui que ce soit au niveau de ces images, sinon par allusion. Simplement, si votre question est qu'est-ce qui a précédé dans le processus de la création l'eau, et vous dites tout de suite, par exemple, l'eau qui entoure le fœtus, ou le fœtus, simplement, au nom de cette chorma de la Kabbalah, je peux répondre, je ne comprends pas votre question. Okay? Ce qui a précédé à la création au niveau de la réalité, c'est le projet de la création. Et simplement retenez le principe général de la tradition biblique, c'est que ce qui nous est raconté à la fin dans le récit de l'accomplissement était au début dans le projet de l'œuvre. Sauf Marassé et Marchava Tfila. Par exemple, le premier verset nous dit « Au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre. C'est donc que les cieux sont plus hauts que la terre, puisque la terre est réalisée après, plus bas, mais c'est donc que dans le projet du Créateur, la terre était avant. C'est pour créer la terre que les cieux ont été créés. » Je relis cela. Ça peut paraître un peu paradoxal pour la pensée occidentale, okay? Que la terre est plus précieuse aux yeux du Créateur que les cieux eux-mêmes, alors qu'en eux-mêmes, les cieux sont d'une qualité plus précieuse que la terre qui est plus bas. Et comment ?
Il y a un autre verset qui dit
là. N'est pas Bria, Asiya, Veyom Asot, Hashem Elokim, Erez Veshamay. Ça, c'est dans Asiya, c'est pas dans Bria. Vous pensez au verset 4 du chapitre 2.
Oui, et puis il y a la discussion entre.
Il est les Shamay.
Et
qui cite finalement un troisième verset qui met les deux premiers en équilibre. Okay. Alors, faites bien attention. Dans le premier verset, c'est Bara. Dans le deuxième, c'est Asot. Je referme la petite parenthèse pour terminer. C'est que ça se relie à ce que j'avais dit précédemment, que toutes ces hiérarchies existent réellement de haut en bas, mais pas de bas en haut. Bien. Tu la parole, David, après.
Alors, j'ai trois questions.
Une par une. Hein.
J'espère que ça donne le sujet. Hein. Au début de la création, Et Dieu dit que la lumière, on a traduit que la lumière soit la lumière fut.
Oui.
Alors, ma première question, d'abord que on voit que du début de la création jusqu'à la fin de la création, le monde est créé par le mot Vayomer.
Oui.
Le mot, c'est-à-dire la douceur.
Oui.
Parce que quand on dit Vaidaber, j'ai appris que c'est de Vaim Kachot, c'est-à-dire avec dureté.
Oui.
Et quand on dit Vayomer, c'est avec douceur.
Oui, exact.
Alors, j'ai appris aussi que quand un texte commençait par Vayehi, c'est signe de malheur. Mais est-ce qu'il. Enfin, qu'après, il y aura un problème à l'intérieur du texte. Et dans ce cas-là, quand il est au milieu du texte, est-ce que Yehi Or, Vayehi Or, est-ce que c'est l'aboutissement de Yehi Or ou est-ce que c'est un problème de malheur qui arrivera après?
Très bien. Alors, très bien. Je vais répondre à la première question. Il te suffisait de la dernière phrase. C'est-à-dire, est-ce que le terme de Vayehi-O du verset signifie, comme la règle habituelle que tu as citée, qu'on annonce un malheur? C'est cela?
Oui.
Bon. Eh bien, oui.
Ou c'est seulement au début du texte que c'est un malheur?
Oui. C'est surtout au début du texte, et lorsque le texte n'est pas seulement Vayehi, mais Vayehi-Bimé.
Ah.
Seulement, on utilise aussi cette règle chaque fois qu'il y a Vayehi. Ça se relie de nouveau à la notion de Tzimtzum. Et je vais vous l'expliquer très rapidement. Yehior, c'est la lumière du projet, qu'il y ait lumière. La lumière du projet est absolue. C'est celle qu'il y aura en fin de compte quand on l'aura méritée. Mais Vayehi, dans la réalité, il y a eu une lumière diminuée. Il y a eu une lumière vraiment, mais diminuée. Ça va donc dans le sens de la même règle, que c'est quand même la chose de Tsar. Tsar, c'est rétrécissement, angoisse. Je crois que là, c'est une question qui est extrêmement à sa place, et c'est ce que nous avons appris déjà dans les cours précédents. Ce qui est voulu dans le projet de création, c'est le Olam HaBriya, c'est le monde dans sa perfection. Et le monde dans sa vérité. Par exemple, dans cette expression, Yehi Or, Et ce haut est plein, total. Mais lorsque ce monde est donné à la réalité pour sa mise à l'épreuve, il y a ce passage de la vérité à la réalité qui est indiqué par le terme de vayihi. Et lorsque la vérité se fait réalité, elle se rétrécit, elle se défigure souvent, elle tombe dans le défaut, et c'est cela qu'indique cette règle de en vayihi et la lachon tsar. Le Zohar l'explique de cette manière. Yehi Or, c'est le Or de Olam Haba, qu'on appelle Olam Abriya, et Vayi Or, c'est le Or de Olam Hazé, qu'on appelle Olam Asiya. Voilà, vous voyez qu'à force de familiarité de vocabulaire, vous verrez que tout est très simple. D'une certaine manière, le monde parfait existe déjà. C'est ce Olam Abriya qui est Marche Bet Abriya, le projet du Créateur. Ce projet du Créateur, le premier Hé, des quatre lettres, descend dans le dernier hé de la réalité. Et Bria descend dans Asiya. Et finalement, l'espérance de Olam Haba, c'est que Asiya pourra être transfigurée au niveau de Bria. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et que Olam Hazé deviendra Olam Haba. Mais d'une certaine manière, le Olam Haba est créé avant le Olam Hazé et diminué dans les dimensions du Olam Hazé. C'est de nouveau une illustration de la notion de Tzimtzoum. Alors si vous voulez profiter de la question de David, chaque fois vous rendrez cette règle, qui est une règle talmudique aussi, je trouve sept fois dans le Talmud, que chaque fois qu'un récit commence par l'expression Vayehi, le futur transformé en passé, le passage de la vérité à la réalité, il y a eu Tzimtzoum, même dans ce verset. Ce verset ne comporte pas Vayehi Chen, et il en fut ainsi, ce qui serait l'ombre d'une lumière. Il y avait une or et il y eut lumière vraiment, mais lumière diminuée, lumière de réalité, alors que le projet, c'est la lumière de vérité auquel nous sommes destinés dans la mesure où nous le méritons. Enfin, grosso modo simplifié, c'est un peu cela le problème. C'est clair? Vous avez dans Rashi, qui cite un midrash, que la lumière des jours du commencement était une lumière totale qui a été diminuée. Mais la lumière du commencement est mise en réserve pour les justes qui la mériteront. Vous vous rappelez de ce midrash? Bien, encore rapidement, deux autres questions, parce que je vois que l'heure avance. Du coup.
Une question. Jusqu'au quatrième jour, on parle du temps à partir du quatrième jour. Parce que Dieu a séparé les morodes, quatrième jour, et les shanim, les shavuot, et les semaines, et les journées. Ouais. Quel est l'espace de temps qu'il y a eu pendant les trois premiers jours?
Bien, c'est une question tellement... Oui, c'est que selon le récit que nous avons dans le récit de la Bible, les structures et l'organisation du temps n'apparaissent que dans l'œuvre du quatrième jour. Or, on parle de succession de temps déjà dans les trois premiers. Ce fut jour, ce fut soir, ce fut matin, jour 1, jour 2, etc. C'est une question sur le temps qui me prendrait trop de temps aujourd'hui. Et je préfère répondre vraiment de façon très très succincte. Jusqu'au moment où l'homme apparaît dans l'œuvre du sixième jour, l'être du monde n'est pas perçu par une conscience humaine et donc n'est pas perçu par les catégories de temps et d'espace de la conscience humaine. Par conséquent, je préférais qu'on réserve pour cette question-là le sens des sphirotes, c'est-à-dire ces jours dont il est parlé ici, c'est aussi la structure des six sphirotes qui mènent au Olam HaAsiya, qui sont de Chesed HaYesod. Je vais vous dire ça vraiment très très brièvement. À propos de l'intitulé de la lumière, que vous avez au verset, à partir du verset que tu as cité, du verset 3, 4, 5, et verset 3, 4 et 5. Vous lirez en détail par vous-même. Je vais vous le dire oralement, brièvement. Vayomer Elohim Yehio, c'est l'or de Chesed. Vayio, c'est l'or de Gevura. Vayar Elohim et Haor Chito, c'est l'or de Tiferet. Vayavdel Elohim ben Haor, l'or de Nessar, ou ben Hacher, qui est l'or de Hod. Vayarev, c'est l'or de Yesod. Vayboker, c'est l'or de Malchut. Et tout cela, c'est Yomer. Alors, cette structure se retrouve elle-même dans l'œuvre des six jours. Le premier jour, c'est l'œuvre de Chesed. Le deuxième jour, c'est l'œuvre de Gevura, etc. Alors donc, dans le quatrième jour, apparaissent les structures du temps qui régissent le Olamas. Je dis ça très succinctement et par allusion pour montrer que ces questions existent, les réponses existent aussi, mais qu'il faut beaucoup plus de temps d'études pour les élucider. Bien. Je suis vraiment désolé, il me reste quelques minutes. Alors, une dernière question, monsieur, qu'il avait posée, et toi demain.
Nous sommes demain,
répétez. C'est
ça vous prend peut-être trop de temps, mais je peux toujours la formuler rapidement. C'est une question, comme toutes les questions intéressées et aussi désintéressées, à propos des commandements de Noé et des Gaulois dont vous avez parlé tout à l'heure et de l'obligation pour les hommes de transformer le mât en mousse. Est-ce que vous pourrez situer, dans le cadre des commandements adressés à tous les hommes, ces deux principes d'une représentation correcte des mondes échelonnés, de connaissance, et sous l'aspect de la liturgie ou du rite, dont vous avez parlé également, quels seraient les critères pour l'ensemble des hommes qui n'ont pas eu la révélation de se conformer, je dirais naturellement, entre guillemets, ou spontanément, entre guillemets, à ces deux principes qui sont la condition de la transformation par l'homme du mât en mie.
Eh bien, je crois que, pour aller vraiment à l'essentiel de votre question, on va se référer à l'exemple des Gaulois. Autant que je sache, les prêtres des Gaulois, disons les druides, avaient pour consigne de ne reconnaître aucune représentation idolâtre. Et donc nous avons là l'exemple de, que cela est possible. Ce qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité est expliqué par beaucoup de sources, mais je vous citerai une source de la culture générale, et qui est ce qui est arrivé dans l'école des pythagoriciens. Les pythagoriciens avaient aussi deux traditions d'explication du monde, une exotérique que les historiens appellent acousmatique, on la répète comme on l'a entendu, mais sans forcément la comprendre, par répétition acousmatique, et qui est polythéiste. Mais une qu'ils appellent mathématique, on la comprend et on répète ce qu'on comprend, qui était une tradition initiatique, ésotérique des pythagoriciens, où il n'y avait pas d'image. Sinon, le langage mathématique. Alors je crois que dans l'humanité, ce qui a été dévoilé, c'est la multiplicité de l'unité divine, ce qui a été caché, c'est l'unité, alors que dans la tradition d'Israël, c'est l'inverse. Ce qui a été dévoilé, c'est l'unité, ce qui est caché à cause des dangers que cela représente, et je crois que la consigne, entre guillemets, que je vous ai indiquée tout à l'heure, peut servir de base à une épuration du problème, c'est que de haut en bas, toutes ces hiérarchies existent, mais de bas en haut, les reconnaître ou les visualiser surtout, et les représenter, c'est cela l'idolâtrie. Je pense que ça pourrait être résumé comme cela. Et par conséquent, ceux qui sont des nations et deviennent d'une certaine manière hébraïsants, plus que judaïsants, d'autant plus que maintenant nous avons une société hébraïque et pas seulement une communauté juive, pourraient utiliser ces principes de la Kabbalah de façon simple, c'est-à-dire de renoncer dans la liturgie de la relation à Dieu à tout ce polythéisme, quel que soit son symbolisme, fût-il récapitulé, et de s'en tenir aux lois de Noé, dont une des plus importantes, c'est l'interdiction de verser le sang ou de le consommer. C'est pourquoi il y a un problème particulier concernant la tradition chrétienne, qui, quelle que soit sa manière dont elle s'est branchée sur la Bible, a gardé ces deux restes du polythéisme ancien, c'est-à-dire d'une part la représentation fût-elle récapitulée, même comme ça se passe dans les temples protestants, c'est quand même une récapitulation de l'idolâtrie, et d'autre part la consommation du sang, ce qui implique que la relation avec le problème de l'interdiction de verser le sang n'est pas encore en ordre. J'ai dit ça très schématiquement. Mais à ces deux conditions minimum près, et on pourrait nuancer d'autres, je pense que la vision de l'alliance des fils de Noé pourrait retrouver une certaine cohérence. Or, ce n'est pas encore le cas, à mon sens. Bien, alors je suis vraiment désolé pour ce matin, mais j'espère qu'on ne me mettra pas de réunion impromptue demain matin, non, j'en suis sûr. Et alors, nous nous retrouvons demain, comme d'habitude, en 11h, pour la fin de la lecture du texte du Rav Kook, c'est-à-dire l'approfondissement de cette question du Yosher et des Egoulim, et surtout la notion de Shrina et son triomphe final, tel que nous allons le voir dans le texte, que je vous invite d'ailleurs à préparer à l'avance jusqu'à demain. Alors à demain, à ce soir, pardon. Et à demain.